who really love you. Walk up and down outside the wall. Some hand in hand, and some gathered together in bands. The bleeding hearts and the artists make their stand. When they've given you their all, some stagger and fall. After all, it's not easy. Banging your heart against some mad bugger's wall.
Radio Canu vous présente dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre. Toujours eux. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre, enregistrement CVRP. Charles est dans son salon, assis avec Marc. Voilà 2 heures qu'il parle. Marc dit « Il y a des moments où j'ai envie de tout casser. Des fois, je suis tellement furieux des gens à cause de leur stupidité à être satisfait de leur vie égoïste et minable que je suis pris d'une envie de les battre. Tu n'as jamais ressenti ça, toi ?
Ne crois pas ça. Quelquefois, mais ce n'est qu'un fantasme. Je rêve de tuer quelqu'un, n'importe qui, comme cela, gratuitement, pour passer au-delà de la morale, pour être vraiment moi. Bien sûr, c'est un rêve, mais pour moi, tuer cela symbolise, serait violer la vie, être au-delà et faire un geste irréversible. Mais je le ferai. Je le ferai. Mais si je le ferai, je ferai tout pour ne pas être pris.
Tu tuerais qui?
N'importe qui. Je ne le choisirais même pas. Pour ce qu'il est, mais une personne comme ça, au hasard. Voilà, mais... je ne le ferai certainement pas.
Remarque, si tu le fais et que tu te fais prendre, qu'est-ce que tu risques? La prison? Tu vis déjà comme une personne en cellule.
Et j'écrirai mes mémoires.
Oui, même ça. Et en plus, tu pourras le faire. Et il y a même de très bonnes bibliothèques en prison. Charles l'arrête et lui dit,
je ferai tout pour pas me faire arrêter. Comme par jeu. Parce que là, en prison, je m'en moque.
J'espère que si un jour tu le fais, tu me le raconteras.
Je te le promets, je te mettrai au courant.
Marc regarde sa montre. Il faut que je parte. Et es-tu d'accord pour me prêter ton appartement de la rue Barrier?
Oui, bien sûr.
Tu comprends, je ne veux pas rester pendant les vacances chez mes parents.
Tu le veux quand?
À la fin de la semaine, vendredi soir.
Bon, je t'attendrai là-bas.
Marc se lève, Charles aussi. Et il se dirige vers la sortie. Charles est grand, maigre et les cheveux bruns, le visage osseux. Marc est plus petit et plus fort. Ils portent tous deux des lunettes. Charles habite un appartement à Lyon, aux Chazières, et a un studio rue Barrier dans le 6e. Le studio est un petit immeuble neuf. Il est au premier étage et c'est une pièce claire avec en plus des meubles dedans. Charles reçoit Marc dans son studio.
Bonjour Marc.
Bonjour Charles. Marc a un sac de voyage à la main. Marc dit,
je suis venu à vélo. J'ai mis dans la corde. J'ai pas vu ta concierge à la fenêtre. Oh, celle-là, alors, hein. J'espère que je la verrai pas. Tu la préviendras que je vis ici quelque temps, parce qu'elle va me poser des tas de questions. Tu lui diras que je divorce et c'est pour ça que tu me prêtes la pièce. Ne te fais pas de soucis.
Marc pose son sac de voyage à terre.
Charles lui dit, bon, le lit, j'ai changé les draps. Tu feras attention au WC, il y a la chasse d'eau qui fuit. Tu tires la chasse d'eau, tu attends qu'elle se remplisse un peu et tu fermes l'arrivée d'eau.
D'accord, pour les draps, tu n'avais pas besoin de les changer, j'ai amené mon sac à couchage. Charles ouvre le placard.
Tu vois, j'ai fait un peu de place pour que tu puisses mettre tes affaires.
Marc ouvre son sac de voyage et sort des vêtements, boîte de conserve et sac de couchage. Charles l'aide à les ranger.
Une fois qu'ils aient fini, Charles demande, est-ce que t'as prévenu quelqu'un que tu habitais ici?
Non.
Personne t'a vu entrer?
Non, même pas ta concierge alors.
Charles réfléchit en marchant dans la pièce. Et dit, bon, tout semble en ordre. tout ça dans l'ordre, oui.
Et il va prendre un livre à la bibliothèque pour montrer à Marc.
Et lui dit, tiens, j'aimerais que tu me dises ce que tu penses de ces photos sur Mont Blanc.
Marc prend le livre et le feuillette.
Charles se retire un peu, il prend à terre un marteau.
Il passe derrière Marc.
Marc lui dit en regardant les photos, c'est pas mal.
Charles, tout d'un coup, lui donne un coup sur le crâne.
Et il tombe à terre.
Charles va poser le marteau dans le placard et revient vers Marc.
Et ben voilà, de toute façon, c'était la meilleure solution. Pas de cris, de bruit. J'aurais pu peut-être l'étrangler, mais il se serait peut-être été plus difficile, se serait débattu, et il aurait peut-être fallu serrer très fort. Une arme. Alors là, une arme, c'est bruyant. Ça fait beaucoup de bruit. Bon, de toute façon, il est mort. Il n'en reste plus qu'à m'en débarrasser.
On sonne à la porte. Il va voir au judas.
Merde, la concierge, elle sait que je suis là. J'ai oublié de fermer les rideaux. Il faut que je lui ouvre, elle me fait chier celle-là. Attendez une seconde, je vais ouvrir. Bon, cachons le corps. Ouh. Tant pis, dans la baignoire.
Il tire le corps jusqu'à la salle de bain.
Eh bien, pour une personne qui ne mangeait pas beaucoup, il est tout de même lourd.
Il le soulève et le met dans la baignoire. Puis, il va ouvrir à la concierge. C'est une petite femme dans les 60 ans, taille moyenne, grosse et cheveux gris.
Je m'excuse de vous déranger un 15 août, mais... comme j'ai vu que vous étiez là, j'ai vu la lumière. Alors, vous allez bien?
Oui, merci.
Moi aussi, ça va, j'attends la retraite. Voilà, j'ai un monsieur qui aimerait vous louer votre studio. Il a les moyens, il peut payer. Est-ce que ça vous intéresse?
Je ne sais pas, il faut que je réfléchisse.
Il est prêt à donner jusqu'à 2500 francs par mois. C'est une affaire.
Bon, je vous donnerai ma réponse la semaine prochaine.
Bien, je vous laisse. Allez, bonne soirée.
Au revoir, madame.
Et il ferme la porte.
Quelle idée de venir à 21h me casser les pieds pour ça. Bon, il faudra attendre un peu pour se débarrasser de l'autre maintenant. Mangeons-nous un moment.
C'est ce qu'il va faire.
À 3h du matin, il se lève pour prendre le corps dans la baignoire.
Le met sur ses épaules et le sort du studio.
Appelle l'ascenseur, met le corps avachi à côté de lui, sort de l'ascenseur, remet le corps sur son dos et sort de l'immeuble. Tourne l'immeuble, c'est la rue Garibaldi, et jette le corps en haut du passage souterrain de la rue Garibaldi, qui est juste à côté de chez lui.
Comme je l'ai assommé, on croira qu'il s'est jeté dans le vide. On pensera à un suicide. Sa mère dira, oui, il avait des idées bizarres et ne pensait qu'à la mort.
Et il retourne à son studio. Il prend le sac, les remplit de ses vêtements.
Je garde les chaussettes, ça peut toujours servir. Et les boîtes de conserve aussi.
Sort le sac rempli et va prendre à la cave le vélo.
Dommage, il était pas mal ce vélo.
Il emmène le sac et le vélo où il a jeté Marc et les jette.
Ça a fait un peu de bruit, mais le 15 août, il n'y a pas grand monde à Lyon. De toute façon, si je me fais prendre, ce n'est pas grave. Mais j'aimerais tout de même pas, juste pour le plaisir, de me dire que j'ai fait un crime sans être pris. Allez, allons nous coucher. Comme la concierge m'a vu, je suis obligé de coucher ici et de partir demain dans la journée. Pour éviter qu'on me soupçonne, bien entendu.
Réveillé par des sirènes et des bruits de voix.
Il se dit, ils ont dû retrouver le corps. Il se sent plus fort. J'ai passé de l'autre côté.
Vois quelque chose.
Puisque j'ai tout risqué, je n'en risque plus rien maintenant.
Il décide de vivre comme marginal. Il a pris cette décision parce que c'est à cause de son geste. Il se sent en dehors de la société. Il a passé de l'autre côté. Il a demandé, une semaine plus tard, la démission de son patron. Vendu ses appartements, ses meubles. Il déambule dans les rues, se lave dans les toilettes publiques, couche dans les halls de gare. Prend même les trains à longue distance pour dormir la nuit. Il ne paye pas ses voyages et fait l'aller-retour pour être au chaud la nuit. Si un contrôleur lui demande son billet, comme il est bien, il fait celui qu'il a égaré. Et comme il est bien habillé et que c'est la nuit, on le laisse en paix. Ou s'il a le temps, il se cache dans les toilettes. Malgré qu'il ait de l'argent à la banque, il n'achète rien, il vole, surtout pour manger. Thank you. Ils volent dans les grandes surfaces, mangent sur place pour ne pas être pris, ou va dans les self-service manger sans payer. Passe ses journées dans les rues, jardins publics, toujours bien habillé. On ne fait pas attention à lui. Lorsqu'il pleut, il va dans les bibliothèques, les manifestations ou les permanences gratuites. Quelquefois, il se dit qu'il a tué pour vivre ainsi. Est-ce que ça valait la peine? Il faut que je fasse quelque chose. Mais quoi? Si je ne trouve pas, c'est un échec. J'ai tué pour prouver que j'étais un homme. Je dois l'être. Mais comment?
Il réfléchit, assis sur un banc dans un jardin public.
Il faut que je fasse quelque chose pour prouver que je sais ce que je suis et que je suis pas de l'autre côté, que je suis leur ennemi. Mais quoi? Voilà, je vais leur mettre des bombes un peu partout. Voilà, et après, j'écrirai aux journaux pour leur dire. Pourquoi? Et dire que je déteste le monde tel qu'il est, que je veux, réveiller les gens pour les sortir de leur petit monde. Et je les réveillerai par des bombes. Oui, voilà. J'ai de l'argent de côté, ça me servira à ça.
Commence à faire frais la nuit, il a décidé de passer la nuit en faisant le trajet aller-retour Lyon-Alsace. Il n'y a presque personne dans les compartiments. Il s'en est trouvé un où il peut dormir seul sur la banquette. Le train file, il s'est endormi, bercé par le bruit du train. Tout d'un coup, la porte du compartiment s'ouvre. Ça le réveille et voit Marc.
Mais c'est un rêve.
Non, Charles. Charles s'assoit. Marc s'assoit à côté de lui.
Ce n'est pas un rêve, Charles.
Je ne suis pas mort. Tu m'as simplement assommé. Je suis resté plusieurs jours dans le coma. Pourquoi tu fais cela? Tu parles d'un ami?
Si avec un ami, on n'ose pas faire ce que l'on n'aimerait pas, n'ose pas faire avec les autres.
Je ne t'en veux pas d'avoir essayé de me tuer, mais de m'avoir raté. Charles hausse les épaules.
Je m'excuse, j'ai pas tapé assez fort.
Et mon vélo, j'y tenais.
La concierge avait vu.
Ça te servait à quoi de faire cela?
Ben, je me sens plus fort. J'ai vu autrement, dans la vie.
Que fais-tu?
Je vis dehors, sans travailler. Je vole, je passe. Mes nuits dans les trains.
C'est pas grand chose. Charles hausse les épaules.
De toute façon, j'ai raté mon coup, puisque tu es là. Tu serais obligé de recommencer.
En tout cas, pas avec moi. Tu es un assassin trop médiocre. Il te manque de l'expérience. Au lieu de se trouver au cimetière, on se trouve à l'hôpital.
Ne t'en fais pas. Je ne recommencerai pas tout de suite.
Que comptes-tu faire, vagabonder? C'est pas reluisant.
J'ai réfléchi cet après-midi. J'ai décidé de faire comme les brigades rouges. Je vais mettre des bombes de partout. Et puisque tu es là, tu vas m'aider. Où fais-tu, que fais-tu dans ce train?
Marc lui dit. Voyage comme ça.
Avec un billet?
Non, comme toi.
On fait une équipe ensemble?
Je veux bien, Charles. Je suis heureux de te revoir.
Moi aussi.
Une semaine plus tard, Marc a acheté un livre qui explique pour faire des bombes facilement chez soi sans se fatiguer avec presque rien. Et comme ils n'ont pas de chez soi, ils préparent leurs bombes la nuit dans les trains à longue distance. Ils amènent une valise chacun, entrent dans un compartiment libre et se mettent au travail. La première bombe a explosé et détruit l'immeuble des Galeries Lafayette des Cordeliers. Charles, en voyant exploser l'immeuble, a dit
« Il y en a un qui sera pas content, c'est Jacques, lui qui est maintenant cet immeuble. Si il savait que c'est moi qui l'ai fait exploser, il serait furieux contre moi. »
Ceci a fait 150 morts, une panique pas possible. Charles a écrit aux journaux le lendemain.
175 sous morts en moins, bande de cons.
À partir de cet attentat, les magasins administration sont surveillés. Charles et Marc, pour entrer dans le centre commercial et déposer leurs bombes, se sont déguisés en vieilles femmes. Et oui, 800 chômeurs en moins. Dans le train, Marc dit « C'est bien de tuer des centaines de personnes, mais les responsables, on ne les a pas. Il faut attaquer les grands de ce monde pour leur faire comprendre que la vie est insupportable et que c'est à cause d'eux. »
« Comment ?»«
En leur envoyant le même jour des colis piégés. »
« C'est leur secrétaire qui risque de les ouvrir. »
« Pas si on les envoie à leur adresse privée. »
« Comment ferais-tu pour les connaître, ces adresses ?»
En les
en enquêtant, en les suivant.
Si tu les suis, tu peux les tuer sans attendre.
Non. S'ils ne s'y sont protégés, on ne peut pas.
Et le travail commence.
Les attentats sur les édifices, grande surface continue et les hommes politiques, la justice, les industriels sont tués aussi. Et à chaque fois, une lettre aux journaux pour dire que ces attentats sont faits pour montrer qu'il faut punir les grands de ce monde.
Vous êtes dans une résidence.
La police se sent démunie, car elle ne sait ni où ni quand les attentats risquent d'avoir lieu. Ils ne savent pas qui les fait. Ils ont fait des enquêtes dans les groupes occultes. Rien. Charles et Marc, ils ne sont que deux. C'est pour cela que c'est difficile de les prendre et ils n'ont pas de domicile fixe. Ils font leurs préparatifs dans les trains.
Halte là, compris. Pas un mot, pas un geste, je vous arrête.
Mais
embarquez-le.
Non, vous êtes gérant,
Après plusieurs mois, ils ont semé la terreur. Charles et Marc se rendent compte que ces attentats deviennent routiniers pour eux. Et l'on peut même dire que c'est comme s'ils avaient un métier. Marc dit dans le train un soir, cela suffit, nous n'allons tout de même pas nous tuer au travail. On a quitté le système, ce n'est pas pour faire de la routine. Nous n'allons tout de même pas passer notre vie à faire des attentats.
Tu as raison, nous avons mérité une retraite tranquille. Surtout que les gens n'ont pas compris le pourquoi de notre action.
Marc dit, alors que faisons-nous?
Nous allons nous reposer à la montagne, au lac de Montrion.
Ah, ça c'est une bonne idée. Et ils ont pris le train pour Chamonix et fait du stop pour Montrion. Nous sommes en juin, il fait beau. Ils ont trouvé un hôtel auberge au pied du lac. Ils y resteront une semaine ou deux et puis partiront sans payer. Un soir, ils font le tour du lac, Charles dit,
puisque nous trouvons que le monde où nous vivons est pourri et que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue, alors il nous reste plus qu'une chose à faire, c'est nous tuer.
Marc le regarde, Charles continue.
C'est logique, regarde, nous avons tué des centaines et même des milliers de gens pour leur faire comprendre que la vie ne valait pas la peine d'être vécue. Nous aussi, n'avons qu'à mourir, puisque c'est ce que nous voulons que les autres comprennent. Regarde.
Charles montre qu'il a dans sa main un revolver.
Tu veux bien?
Qui commence? Charles lui dit.
Toi, après moi.
Marc prend l'arme, la regarde. Les rayons de la lune la fait briller.
Bon.
Il la met sur la tempe et tire. Il tombe à la renverse. Charles se penche, prend l'arme qui est tombée à terre, fait rouler le cadavre dans le lac. Regarde là.
Si je me tue, c'est la fin. Et je n'ai pas assez écrit de pages.
Que faire? Charles ferme le livre. Marc, qui est assis près de lui, demande « Ça se termine comment ?»«
Je ne sais pas, je n'arrive pas à trouver la fin. »
Marc sourit et dit « Tu es drôlement culotté tout de même. Tu te donnes le beau rôle. Dès le début, tu mens. C'est moi qui t'ai dit plus d'une fois de me tuer. »«
Tu ne vas tout de même pas me reprocher ça, non ?»
Marc répond « Et mes idées dans tout ça ? Rien ?» Charles se lève nerveusement.
Tu ne vas pas me faire de scène, non?
Marc. Oui, mais tout de même, tu aurais pu mieux parler de mes idées.
Tes idées. J'en fais ce que je veux, moi, tes idées. C'est mes écrits à moi. Tu m'énerves avec tes scènes. J'en ai assez de tes idées aussi.
Marc se lève furieux. Et dit, oh ben alors toi, hein? Charles lui crie à la figure.
Oui, ça fait des années que tu me parles de tes idées. Et que tu veux mourir. Ah, tu veux mourir? Eh bien, tu vas mourir.
Il se jette sur lui et le fait tomber. Il le maintient à terre et lui crie.
Ça, tu ne te défends pas, hein? Parce qu'alors là, ce serait le comble.
Marc se laisse aller. Charles met ses mains sur son cou et serre, jusqu'à ce qu'il ne sente plus de résistance et voie la langue pendante, les yeux grands ouverts et le visage violet. Il se relève.
J'espère qu'il est mort, mais on ne sait jamais avec lui. Il serait bien capable de ressusciter, rien que pour m'emmerder. Et voilà, je me retrouve encore avec son cadavre. Que vais-je en faire? Et cette fois, je ne l'avais pas prévu. Et en plus, nous sommes en plein après-midi. Oh, tu as tout fait pour m'embêter. Même mort, tu es aussi encombrant que vivant.
Il se penche vers Marc.
Mais qui es-tu pour me rendre la vie impossible? Pourquoi réapparais-tu constamment dans mon existence? Existes-tu vraiment? Fais-tu partie de mon imagination? Et si tu étais le diable, ou peut-être mon double? Mon histoire avec toi ne se terminera peut-être jamais, puisque tu ressuscites à chaque fois.
Il se relève.
Je vais partir te laisser ici. Tu seras bien au milieu de tous mes écrits, où tu as déjà une place importante. De toute façon, je sais qu'un jour je te reverrai. Pas la peine que je cherche à te faire disparaître.
Et il sort de la pièce.
Thank you.
Radio Canu vous a présenté, dans la série L'écran radiophonique, un scénario original de Julien Jean-Pierre, encore E. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.